Chapitre 7. À maison visionnée, habitant visionnaire. Gilliatt était l'homme du songe. De là ses audaces, de là aussi ses timidités. Il avait ses idées à lui. Peut-être y avait-il en Gilliatt de l'halluciner et de l'illuminer. L'hallucination hante tout aussi bien un paysan comme Martin qu'un roi comme Henri IV. L'inconnu fait parfois à l'esprit de l'homme des surprises. Une brusque déchirure de l'ombre laisse tout à coup voir l'invisible, puis se referme. Ces visions sont quelquefois transfiguratrices. Elles font d'un chamelier Mahomet et d'une chèvrière Jeanne d'Arc. La solitude dégage une certaine quantité d'égarements sublimes. C'est la fumée du buisson ardent. Il en résulte un mystérieux tremblement d'idées qui dilate le docteur en voyant et le poète en prophète. Il en résulte Horeb, le cédron, Ombos, les ivresses du laurier de Castalie mâché, les révélations du Moibusion. Il en résulte Péléa à Dodone, Phémonée à Delphes, Trophonius à Lébadée, Ézéchiel sur le Kébar, Jérôme dans la Thébaïde. Le plus souvent, l'état visionnaire accable l'homme et le stupéfie. L'abrutissement sacré existe. Le fakir a pour fardeau sa vision comme le crétin son goître. Luther parlant au diable dans le grenier de Wittenberg, Pascal masquant l'enfer avec le paravent de son cabinet, Lobinègre dialoguant avec le dieu Bossum à face blanche, c'est le même phénomène, diversement porté par les cerveaux qu'il traverse selon leurs forces et leurs dimensions. Luther et Pascal sont et restent grands. Lobby est imbécile. Gilliatt n'était ni si haut, ni si bas. C'était un pensif, rien de plus. Il voyait la nature un peu étrangement. De ce qui lui était arrivé plusieurs fois, de trouver dans de l'eau de mer parfaitement limpide d'assez gros animaux inattendus, de formes diverses de l'espèce méduse, qui, hors de l'eau, ressemblaient à du cristal mou et qui, rejetés dans l'eau, s'y confondaient avec leur milieu par l'identité de diaphanéité et de couleur, au point d'y disparaître, il concluait que, puisque des transparences vivantes habitaient l'eau, d'autres transparences, également vivantes, pouvaient bien habiter l'air. Les oiseaux ne sont pas les habitants de l'air, ils en sont les amphibies. Gilliatt ne croyait pas à l'air des airs. Il disait « Puisque la mer est remplie, pourquoi l'atmosphère serait-elle vide? Des créatures, couleur d'air, s'effaceraient dans la lumière et échapperaient à notre regard. Qui nous prouve qu'il n'y en a pas ?» L'analogie indique que l'air doit avoir ses poissons comme la mer a les siens. Ces poissons de l'air seraient diaphanes, bien faits de la prévoyance créatrice pour nous comme pour eux, laissant passer le jour à travers leur forme et ne faisant point d'ombre et n'ayant pas de silhouette, ils resteraient ignorés de nous, et nous n'en pourrions rien saisir. Gilliatt imaginait que si l'on pouvait mettre la terre à sec d'atmosphère et que si l'on pêchait l'air comme on pêche un étang, on y trouverait une foule d'êtres surprenants et, ajoutait-il dans sa rêverie, bien des choses s'expliqueraient. La rêverie, qui est la pensée à l'état de nébuleuse, confine au sommeil et s'en préoccupe comme de sa frontière. L'air habité par des transparences vivantes, ce serait le commencement de l'inconnu. Mais au-delà s'offre la vaste ouverture du possible. Là d'autres êtres, là d'autres faits. Aucun surnaturalisme, mais la continuation occulte de la nature infinie. Gilliatt, dans ce désœuvrement laborieux qui était son existence, était un bizarre observateur. Il allait jusqu'à observer le sommeil. Le sommeil est en contact avec le possible, que nous nommons aussi l'invraisemblable. Le monde nocturne est un monde. La nuit, en tant que nuit, est un univers. L'organisme matériel humain, sur lequel pèse une colonne atmosphérique de 15 lieues de haut, est fatigué le soir, il tombe de lassitude, il se couche, il se repose. Les yeux de chair se ferment. Alors, dans cette tête assoupie, moins inerte qu'on ne croit, d'autres yeux s'ouvrent, l'inconnu apparaît. Les choses sombres du monde ignoré deviennent voisines de l'homme, soit qu'il y ait communication véritable, soit que les lointains de l'abîme aient un grossissement visionnaire. Il semble que les vivants indistincts de l'espace viennent nous regarder et qu'ils aient une curiosité de nous, les vivants terrestres. Une création fantôme monte ou descend vers nous et nous côtoie dans un crépuscule. Devant notre contemplation spectrale, une vie autre que la nôtre s'agrège et se désagrège, composée de nous-mêmes et d'autres choses. Et le dormeur, pas tout à fait voyant, pas tout à fait inconscient, entrevoit ces animalités étranges, ces végétations extraordinaires, ces lividités terribles ou souriantes, ces larves, ces masques, ces figures, ces hydres, ces confusions, ce clair de lune sans lune, ces obscures décompositions du prodige, ces croissances et ces décroissances dans une épaisseur trouble, ces flottaisons de formes dans les ténèbres, tout ce mystère que nous appelons le songe et qui n'est autre que l'approche d'une réalité invisible. Le rêve est l'aquarium de la nuit. Ainsi songeait Gilliatt.